secteur religieux se construit chez l'enfant. Et comment il se construit? Je ne sais pas si vous êtes bonne, c'est cette question. Mais pour que la conversion, la rencontre avec le Seigneur, ou la rencontre avec quelque chose qui va être jouer la fonction du transcendant, du divin chez quelqu'un, il faut bien qu'il y ait déjà quelque chose en nous pour que la rencontre se fasse. D'accord ? C'est vrai que Dieu en parle en disant qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Voilà. C'est-à-dire que pour que la rencontre ait lieu, il faut qu'il y ait ce que fait Dieu, mais il y a aussi ce qui est déjà en nous sur lequel il s'appuie hein, pour le faire. L'idée, c'est de travailler avec vous sur comment le religieux se construit chez l'enfant. L'idée, c'est de vous aider à comprendre la dimension magico-religieuse qu'on retrouve chez les adultes. Qu'est-ce qui fait, par exemple, après toutes ces années, il y a des gens qui ne grandissent pas dans la foi. Pourtant, le fait de grandir dans la foi, c'est ce que dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, dit, vous devriez être des adultes, des maîtres, vous êtes encore des enfants, vous êtes encore au lait. Ça sous-entend qu'il y a un processus de maturité pour devenir adulte. Et puis Paul qui dit aux Corinthiens, je ne peux pas vous parler des choses matures, adultes, vous êtes encore trop enfant. Eh bien, c'est intéressant de voir, c'est un petit peu c'est quoi ça? C'est toute cette question-là. Et pour pouvoir aider les personnes que vous rencontrez. Et puis, à mon avis, c'est une aide quand on accompagne des personnes qui démarrent dans la foi, qu'on se rende compte à quel moment il ne faut pas les laisser en route. On les laisse en route trop tôt. En fait, on les laisse se débrouiller trop vite. Hein. Mais ça, c'est par méconnaissance. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne porte pas un jugement là-dessus. Hein. Donc, le fait que l'enfant arrive dans un monde qui est construit avant lui et qu'il naît immature et qu'il doit aller vers la maturité fait que l'enfant est dans une grande dépendance par rapport à l'adulte. Cette position d'immaturité le rend dépendant. Et si vous avez quelques souvenirs d'enfance, quand on est enfant, le monde nous paraît vaste, nous paraît immense. Et le monde nous fait peur. On a quelques exemples comme ça. Quand on a des souvenirs, par exemple, des lieux d'enfance qu'on voyait, on imaginait que la sonnette était très grande, le lieu était très grand. On y retourne à l'âge adulte et puis, pouf, tout d'un coup, c'est tout réquiqué. Hein? Pour dire, ça donne une idée, vraiment. L'image qu'on a gardée en soi, c'est l'image de l'enfant, le souvenir de l'enfant, du traitement du lieu. Hein? Pour montrer un peu comment ce monde l'envahit et le submerge. Alors, cette dépendance matérielle et qui va se transformer en dépendance affective aussi. Hein, elle va être matérielle. Il faudra donner à voir au nourrisson, au bébé, hein, de cette dépendance qui va se transformer aussi en dépendance affective, fera que l'enfant va commencer à déifier ses parents. D'ailleurs, il y a une période faste pour ça. C'est autour de 4-5 ans, mon papa, ma maman, hein, d'accord, hein, quand il... Bon, comme je dis, mon papa, c'est le plus grand, même s'il fait 1m32. Il est forcé, il est le plus fort, même s'il est maigrelé. Hein. Bon, donc l'enfant commence son religieux en attribuant à ses parents des qualités du divin. D'accord ? Et ça, c'est lié au fait que les parents pourvoient à ses besoins. Quand il a peur, les parents, tout ce dont il a besoin, les parents pourvoient tout ce dont il a besoin. Et même les parents font quelque chose, ils sont fantastiques. C'est que, au fur et à mesure qu'il grandit, les parents finissent par connaître les goûts de l'enfant. Hein? Là, Noël arrive, d'accord, on y pense déjà à ce cadeau de Noël. Alors, il a fait sa lettre au Père Noël, on le sait. Mais le parent a dans la tête le cadeau qui sera... le parent sur la liste guette le cadeau qui n'est pas sur la liste. Ce cadeau qui va l'émerveiller. Et si le cadeau n'est pas sur la liste, ou même quand le cadeau est sur la liste, et qu'il le reçoit, alors là, c'est trop fort. Le papa, les parents sont trop forts. Ils arrivent même à deviner et à anticiper ses désirs. Alors ça, c'est fantastique. Et l'idée donc la plus naturelle de l'enfant, c'est l'idée et dont il aura beaucoup de peine à se débarrasser. Cette première idée naturelle dont il aura beaucoup de peine à se débarrasser, c'est que ses parents sont des dieux. Il aura beaucoup de peine à s'en débarrasser. Il aura tendance à les idéaliser. Même pour les quitter à l'âge adulte, pour s'attacher, pour devenir. Oh, ça sera un travail. Beaucoup de travail pour sortir les parents de cette place du divin. Beaucoup de travail, il faudra beaucoup de temps, beaucoup des années. Il ne peut pas en être autrement, puisque l'enfant, si on ne s'en occupe pas, il meurt. Si on ne s'en occupe pas, il est carencé. Mais ce voyage des parents vers le Dieu révélé va être un voyage qui va prendre du temps pour se défaire des parents Dieu. Et c'est normal aussi parce que les parents sont visibles. Je peux les nommer, les enfants peuvent les nommer, les voir, les décrire, les percevoir. Alors que Dieu, on ne le voit pas quand même. Donc, les parents Dieu sont du monde visible, celui qu'il connaît, celui qui fait partie de son environnement. Et Dieu, il est hors d'un autre monde, du quotidien. Il faut le saisir autrement. Et ce passage de l'un à l'autre va durer un certain temps. Et ce temps, c'est le temps de maturation de la foi, les étapes. Hein, ça va se traduire par des étapes de construction. L'essence donc du sentiment religieux chez l'enfant, c'est un mélange d'amour et de crainte. Il est fait de ça, d'amour pour les parents et de crainte. Le religieux, c'est d'abord ça pour lui. Il ne va pas le nommer ainsi, on est d'accord. Mais la manière dont il fait, c'est du religieux. C'est pour ça qu'on a du religieux partout. Dans toutes les cultures, on a du religieux. On a du sacré dans toutes les cultures. Puisque ses parents Dieu sont suffisamment forts pour assurer sa sécurité. Or, qu'est-ce qu'un enfant demande ? C'est de se sentir en sécurité. Qu'il y ait des personnes qui le dépassent et qui soient capables de venir à son secours pour l'aider dans ses difficultés, qu'il soit capable de le comprendre, qu'il soit capable aussi de lui parler du monde, hein, de lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. On les emmène dans des lieux, dans les zoos, on lui explique, on lui prend des bouquins, on les... Voilà, et tout ça, et en se faisant, les parents prenant soin de l'enfant de cette manière, hein, et tous les parents font ça, vont calmer les angoisses de l'enfant, les peurs de l'enfant. Et s'il n'a plus peur, c'est parce qu'il y a des gens qui veillent sur lui. Vous avez vu, le vocabulaire est très proche de ce que nous avons de notre relation avec le Seigneur. Il vient calmer nos peurs face à ce monde si vaste et ces événements qui nous dépassent. Il prend soin de nous, une permanence de sa présence. Et tout ça nous apaise. Ça a le même effet. Et c'est pour cela que ce religieux peut facilement se superposer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même nature. D'un côté, on a le Dieu révélé qui nous fait marcher par la foi. Et l'autre, vous avez le Dieu à l'image des hommes, hein, qui est un peu qui nourrit le magico-religieux, le magique. Et on a un personnage de la Bible qui va vivre ces deux moments. C'est Job. Job avait une foi païenne. Il offrait au cas où un tout aux ses enfants. D'accord ? Au cas où. Comme les enfants font au cas où pour être aimés et pour redouter un petit peu la punition. Donc pour être aimés, ils vont être là. Ok ? Quand il passe par ce temps très difficile pour lui et qui dure un peu longtemps, on voit bien que sa représentation du divin change. Lui-même le dit. Hein? Mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon oeil te voit. Mais ça va plus loin. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Eh bien, c'est ce passage. La maturation de la foi, c'est faire ce passage de cette première représentation de Dieu qu'on a, comme Job, d'accord, à une représentation juste du Dieu révélé en Christ. Et vous avez vu tout le cheminement, hein, et tout le cheminement de Job, ça s'est pas fait, pouf, de façon magique. Hein. Il a dû remanier beaucoup de choses. Alors, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, on sera dans la situation de perte de Job. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Mais simplement, c'est un travail pour modifier cette représentation. Et cette représentation du divin chez l'enfant, d'accord, mêlée d'amour et de crainte, va construire un lien de respect. Ça vous dit ça? Ça ressemble beaucoup à notre relation avec le Seigneur après. Hein? Une relation faite aussi d'amour, mais de crainte, à Dieu, qui va emmener un lien de respect. Il est l'autorité. Hein? Pareil. On a des similitudes. Et l'enfant, dans ce rapport à ses parents, c'est ce qui va lui donner, ce respect va lui donner, va construire le sentiment filial chez l'enfant, dans son rapport à ses parents. Et donc, l'enfant va dire que, va penser que ses parents, Dieu, hein, va attribuer à ses parents ce que la théologie prête au divin, ce que la théologie prête à Jésus, au Dieu. C'est-à-dire la sainteté. D'ailleurs, pour les enfants, ce n'est pas possible que les parents mentent. Donc, quand on fait des plaisanteries entre 2 et 6 ans, et ce dont je vous parle, ça émerge avec la pensée entre 2 et 6 ans. Hein, c'est comme ça qu'émerge la pensée à cette période, hein, qui va poser. Pour un enfant, ce n'est pas possible que les parents mentent. D'accord ? C'est pour cela que quand on fait des blagues, il faut bien lui dire que c'est une blague. Parce qu'il vous prend au sérieux. Il prend auprès de la lettre. D'accord ? Bon. Et puis, et les parents sont tout puissants. D'ailleurs, quand on n'a pas d'argent, prends le chéquier, prends la carte bleue. Ça y est, t'as trouvé, hein? C'est pas possible. D'accord? Les parents savent tout. À un moment donné, les enfants pensent que les parents sont capables de lire dans les pensées, puisqu'ils sont capables de lui offrir, de précéder ses désirs. D'accord, de lui faire le cadeau dont il rêve, d'accord, qui fera plaisir. Eh ben c'est qu'il sait lire dans les pensées. Pour les enfants aussi, les parents sont éternels. Et quand on commence à penser alors, qu'un jour ils ne seront pas là, tout dépend de la qualité du lien, on commence à dire, ah non, c'est pas possible. Et puis quand le parent commence à dire, oh là là, hein, parler de sa mort, ou dire, oh ben dis donc, je commence à bien vieillir, bientôt je ne serai plus. On lui dit, mais non. T'as encore des longs jours devant toi. On imagine nos parents éternels. Et puis aussi, donc toutes ces qualités feront que il faudra du temps à l'enfant, même quand il a 10 ans, il pense encore que ses parents sont tout puissants. C'est pour ça que c'est à cause de ça que l'enfant ne comprend pas le refus parental. Pour lui, le refus, c'est une privation injuste. Il a, du coup, sa notion même de l'amour, hein, c'est que c'est des parents qui me donnent tout. S'ils me disent non, c'est qu'ils ne m'aiment pas, d'ailleurs. Et l'enfant va découvrir aussi autre chose, la bonté, que les parents sont bons. D'ailleurs, dans ces cas-là, il va l'appeler par des petits surnoms, il va faire un compliment, voilà, mon petit papa chéri, ma petite maman chérie, hein, d'accord? Bon, tout cela, c'est l'expression de la bonté des parents. Mais Dieu aussi est bon envers nous, n'est-ce pas? Bon, donc, vous voyez un peu le lien, et comment l'enfant se vécu, là, nous, hein,
est très présent. Donc la vraie religion, autrement dit, hein, si je résume tout ça, c'est que la vraie religion de l'enfant, dans les premières années, ce sont ses parents. Les parents sont des dieux. Pour ça que l'enfant, de cette période, entre deux, au moins 2 et 6 ans, n'a pas besoin de d'autres dieux. Jésus, comme me disait là, quand je faisais l'école pour les enfants, hein, enfin dans mon église il y a des années, rien, il disait, mais Jésus, c'est comme Goldorak. Ils me donnaient, ils associaient Jésus à tous les personnages. Parce que c'est normal, des personnages extérieurs. Puisqu'il a déjà les dieux. Ces dieux, ce sont ses parents. Il n'en a pas d'autres. Et en plus, à cet âge-là, l'enfant pense que le monde a été créé par l'homme, pour l'homme et donc pour lui. D'accord ? Donc, ça, il nous faudra un petit peu de temps pour construire ça chez l'enfant. Voilà. Et puis, j'aimerais quand même vous dire juste quelques mots. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'avoir travaillé concrètement pendant des années avec dans la communauté OGT, avec le but de ne pas les perdre à l'adolescence, comment ne pas perdre nos ados ? Et tout le monde est concerné. Moi, je ne connais pas une communauté. Hein. Comment construire à partir de ce religieux un Dieu vivant dans la vie de l'enfant pour qu'il reste, c'était ça le défi. Nous étions un petit groupe de fêlés qu'on nous avait appelés. Donc, à l'époque, il a fallu beaucoup convaincre le responsable en lui disant ça ne coûte rien, qu'on essaye de faire les choses autrement. De toute façon, ils partent. Hein, comment faire pour qu'il s'insère dans la vie de l'Église ? Bon, on a quand même réussi notre pari, hein, avec, à partir de cette connaissance. C'est que l'enseignement religieux chez l'enfant, le jeune enfant, sauf quand il entre à l'adolescence, à la puberté, c'est son interrogation. Mais chez le jeune enfant, l'enseignement religieux vient du dehors. Il le vit comme un corps étranger à sa pensée. Et ce n'est pas parce que les enfants vous répètent les mots qu'ils en ont la représentation. Et donc, la première chose à faire découvrir, c'est qu'il y a un Dieu créateur. Et pour les enfants, un Dieu créateur est d'abord concret, fait des choses, parce que les parents font des choses. Les parents ne se contentent pas de parler, les parents agissent. Ils le palpent, le bonbon, ils l'ont dans la main, son jus préféré, et ils boivent. D'accord ? Bon, donc, chez le jeune enfant, pour le Dieu créateur doit être un Dieu où on fait des choses concrètes. On peut planter des choses et les voir pousser. C'est concret. L'enfant sait très bien si ça pousse. Hein, d'accord ? Au début, il va penser que c'est vous qui êtes passé de nuit pour que ça pousse. Et après, il se rendra compte que non. Hein ? Bon, d'accord ? Des choses concrètes. Des choses qu'on dit avec la création. C'est ce que dit d'ailleurs Paul nous dit, que la création témoigne de l'existence de Dieu. On peut s'en servir de ça pour construire un Dieu créateur pour chez l'enfant. Parce que pour lui, le monde a été fait par les hommes. Et pour l'homme, et donc pour lui. Donc c'est pour ça qu'il n'aime pas quand on lui dit non. Quand on lui dit non, il s'énerve. C'est pas normal. D'accord ? Et il vous dit en plus, c'est pour ça qu'il dit souvent, t'es méchant, t'es méchante. D'accord ? Je ne t'aime plus. Enfin, c'est ça. Parce que l'enfant considère ça comme une injustice. C'est un abus de pouvoir d'ailleurs. D'accord ? À ses yeux, c'est ça. Il nous traite ainsi. Bon. Même si, voilà, il faut un peu de temps pour qu'ils comprennent que c'est pour autre chose. Deuxième chose qui se passe pour l'enfant, à cette période, au moment où la pensée émerge, c'est que l'enfant a du mal, et lui faut un long temps, pour construire ce qui est de l'ordre du dedans et ce qui est du dehors. Et je vous donne un exemple, c'est pour les rêves. Il est persuadé que c'est dans sa chambre. Il n'a pas, quand il rêve, c'est pour ça qu'il n'a pas envie de rentrer dans la chambre. Parce que pour lui, ce qui lui fait peur est dans la chambre. Alors que le rêve est en nous. D'accord ? Le rêve est en nous. Mais pour l'enfant, comme la frontière entre le monde du dedans et le monde du dehors est très ténue, n'est pas assez solide, il confond les deux événements. Hein? Voilà. Et c'est pour cela que l'enfant a besoin de construire ce que j'appelle pour du faux et pour du vrai. Hein? D'ailleurs, ils vous demandent quelquefois, quand ils ne savent plus, ils vous demandent est-ce que c'est pour du vrai ou est-ce que c'est pour du faux. Ils posent la question parce que ce n'est pas construit. C'est construit chez l'adulte. L'adulte, voilà. Mais chez l'enfant, ça n'est pas construit. Donc cette frontière ténue fait que le monde extérieur est très proche de lui, dans le, du dedans de lui. C'est pour ça qu'il peut avoir peur, par exemple, d'une peluche. Elle est, il peut avoir peur d'une peluche, on lui dit, mais c'est une peluche, c'est pas un vrai serpent, c'est pas un vrai... Il n'entend pas, parce que ces deux mondes sont très, très, très proches. Ça va ? De ce fait, pour lui, la pensée et l'action, c'est pareil. La pensée et l'action, c'est pareil. Et vous allez retrouver cette dimension-là chez des adultes, des chrétiens adultes, qui va penser que déclarer les choses, c'est comme agir. Déclarer les choses, c'est comme agir. Or, Jean nous dit, celui qui écoute est pratique. Certains chrétiens font ici comme fonctionne l'enfant. Et ils fonctionnent de la même manière, d'accord ? Parce qu'ils fonctionnent avec la pensée du religieux, même s'ils parlent de Jésus, avec un monde assez ténu entre le dire et l'équivalent du faire. Hein ? Bien, en disant ça, j'espère ne blesser personne. Hein. C'est pas mon but. Hein. J'essaie simplement d'expliquer un petit peu les choses qu'on voit. D'où, parfois, une position passive qu'on peut avoir chez les personnes. Parler, c'est comme agir, parler, c'est penser. Et le fait que l'enfant n'a pas encore mis une limite entre monde interne et monde externe, fait que l'enfant confond dans la réalité les choses. Par exemple, il y a des gens qui vont confondre avoir un Dieu tout-puissant et être tout-puissant. Ils vont confondre les deux. Comme ils ont un Dieu tout-puissant, pour eux, quand ils parlent de la part de Dieu, ils sont tout-puissants. Quand ils disent quelque chose du rôle de Dieu, du Seigneur, ils sont tout-puissants aussi. Bon, il y a un mode entre les deux quand même. Mais on en rencontre tout de même, hein, cette frontière ténue. Et donc, d'où le magico-religieux. On dit une parole. D'où les pouvoirs magiques par la parole, chez beaucoup, qu'on peut rencontrer. Hein, une parole toute puissante. Hein. Et ça va se traduire, la magie chez l'enfant vient de trois choses. Hein, trois choses qui caractérisent la pensée de cette tranche d'âge. C'est la confusion, j'ai dit, entre la pensée et l'agir, hein, première chose. Mais aussi, le fait que l'enfant transpose dans le monde physique, dans le monde qu'il voit, les rapports qu'il a avec ses parents. C'est bien connu, une table c'est méchant, un pied de table, enfin bref. D'accord ? Les choses, l'enfant va nommer le monde physique comme il nomme la relation à ses parents. Ça, c'est la deuxième, la base du magico-religieux. La troisième chose, c'est que l'enfant s'admire beaucoup. Vous avez remarqué ? Trop fort ! Et trop bien ! D'accord ? C'est ce qu'on appelle le narcissisme. L'enfant est épaté par lui-même. D'accord ? Et on peut le comprendre. Parce qu'il vient du berceau, où il est complète, il a une immaturité physique. On le prend, on le pose. Il ne peut rien faire, même s'il voudrait faire autre chose. Petit à petit, il sort de cette position immature et il va à la conquête. Il commence à marcher, courir, autre. Et au fur et à mesure qu'il grandit, donc la maturité du corps se met en place dans son développement. Il va de conquête en conquête. Et il y a de quoi l'émerveiller quand même, hein, trop fort. Vous le comprendre. Il n'arrivait pas à faire du vélo, maintenant il arrive à faire du vélo, même si ça avait été deux roues. Et après, il enlève les roues trop fort, il y arrive. Il arrive à grimper, il arrive à mais se chausser tout seul, il n'a plus besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il grandit, ce sont des conquêtes. Et quand on est dans la conquête, c'est vraiment trop fort. Mais il commence à s'expliquer, il ne peut pas encore s'expliquer les conquêtes. Pour lui, c'est comme par magie. Il ignore que c'est une maturité du corps qui est arrivée, une maturité cérébrale, et que c'est le fruit de la croissance, que c'est la base biologique qui fait ça. Il ne le sait pas. Il ne sait pas d'où ça vient. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il y arrive. Donc il est trop fort. Il y a quelque chose de dopant et de magique à la fois pour lui. Eh bien, le magique chez l'enfant, d'accord, tient de ces trois choses. Parce qu'il pense que, ainsi, l'enfant pense que ce qu'il fait a une valeur particulière, ses progrès sont magiques. Et donc, nécessairement, ça vient de la pensée. Allez, forcément, c'est magique. Et puis, l'enfant va mettre en place des choses qui vont soutenir la magie de sa pensée. Par exemple, l'enfant va avoir des pratiques magiques par des gestes. D'accord ? Par des gestes, il va penser qu'il va faire disparaître les choses. Hein? C'est pour ça qu'il aime bien les dessins animés. On fait pish, 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 pish. Hein? D'accord, hein? C'est la magie par le geste. Bon, pour lui, il suffit de... D'ailleurs, il joue à ça. Il dit, t'es mort. Bref, il joue à ça avec les parents. Il te fait disparaître, soi-disant. Mais bon, dans la réalité, non. Mais dans sa pensée, non. Donc, il va, par des gestes, montrer qu'il est capable d'exercer une influence sur son environnement. Par des gestes. Et en même temps, il va utiliser les gestes à la fois par rapport à ce qu'il souhaite, mais aussi par rapport à ce qu'il redoute, ce qu'il craint. Allez, croisons les doigts. Fais demander à maman. Elle va nous dire oui. Tous ces gestes que les enfants mettent en place comme magiques, pensant qu'avec le geste, d'accord, ils sont capables d'influencer la réponse parentale. Hein? On a tous fait ça. D'accord. Ensuite, il y a aussi la magie par la pensée. Mais alors, comment dire? L'enfant a l'impression qu'un regard, qu'une pensée va changer la réalité. Alors, je vais vous donner des exemples. Vous essayez de le convaincre que les choses ne marchent pas ainsi. Il veut absolument monter son machin ainsi. Hein, le jouer, pas peur. Vous savez très bien que ça ne marchera pas. Mais il insiste en vous disant, oui, ça marchera. Hein? Parce que là, il a pensé à la chose. Forcément, ça va arriver comme ça. Il pense que avec sa pensée, il pourra modifier la réalité, même si on sait, nous on sait en tant qu'adultes, que non. Bon, mais l'enfant est persuadé. Et ça dure assez longtemps chez l'enfant. Même quand il a 9-10 ans, on dit à l'enfant que ça n'a pas marché comme ça. Il dit, oui, tu vas voir, je vais y arriver. Je vais y arriver quand même. Il va persister dans son action en pensant que sa pensée est suffisamment puissante pour changer la réalité. Bien sûr que non. Bon. Alors, ça c'est encore autre chose dans le magique. C'est par commandement. Par exemple, alors, il y a des enfants qui pensent qu'ils peuvent commander le déplacement des nuages. Hein? Il y en a qui voient des formes. Il y en a qui disent, regarde, je lui ai dit de se déplacer. Tu vois comme il se déplace? J'ai travaillé suffisamment longtemps avec eux pour l'avoir vu plein de fois. D'accord, j'ai suffisamment travaillé avec eux des années, hein, pour l'avoir chez les enfants. Alors, parfois, c'est ça, c'est autre chose. Bon. Et c'est comme ça qu'ils s'essayent d'ailleurs à faire des tours de magie qui ne marchent pas, d'ailleurs, hein, pour vous épater. Bon. Ça, c'est le magique chez l'enfant. Donc, c'est... Bon. Et puis, l'enfant utilise autre chose. C'est... L'enfant utilise la fabulation. Deuxième chose qu'il utilise, c'est la fabulation. La fabulation sert à empêcher la réflexion. Vous avez remarqué, souvent les enfants ont réponse à tout. L'enfant n'aime pas ne pas pouvoir répondre à quelque chose. Donc, il vous bricole une réponse. En tant qu'adulte, tu vois bien qu'en tant qu'adulte, on s'aperçoit que c'est un bricolage. Ce bricolage, quand il est fait avant 6 ans, ce n'est pas du mensonge. C'est à partir de 7 ans que l'enfant sait que la règle, c'est la vérité entre eux. Mais le bricolage de l'enfant, pour vous répondre, hein, ce n'est pas du mensonge avant cet âge. D'accord ? Souvent, les parents pensent que l'enfant ment. L'enfant ne ment pas. L'enfant bricole, d'accord ? Parce qu'il est embarrassé par la réflexion. Il ne sait pas réfléchir comme l'adulte à cet âge-là. Oui.
Cette frontière de 6 ans, 7 ans, comment est définie ? Enfin, qu'est-ce qui...
C'est pas... Oui.
Comment on a fait pour savoir que c'est 7 ans et non pas 6 ans et
Parce que c'est vers 7, d'ailleurs, tu vois, c'est vers 7, 6, 7 ans, il apprend à lire. Ok ? La lire, c'est l'ouverture à un monde très élargi. D'ailleurs, quand il commence à lire, il faut plaquer vos affaires parce qu'il lit tout vos papiers. Dès qu'il sait lire, il commence à lire tout ce qu'il y a sur la main, si vous ne faites pas attention. Hein, d'accord ? C'est l'ouverture d'un monde. D'accord ? Et puis, à cet âge-là, il est capable d'organiser une partie des choses sans que vous rendiez compte qu'il est capable d'organiser logiquement son propos. Et dans la logique du propos, vous ne voyez pas toujours quand il vous raconte des craques. Et plus il grandit, moins vous voyez des craques.
Mais il y a des enfants où ça arrive plus tôt.
Non, en général ça arrive entre 3 et 5 ans, vers la fin de la grande section, début CP. Après, sinon, alors ce qui trahit l'enfant, souvent, quand il fabule, c'est toute la mimique. C'est comme ça que les parents s'en rendent compte. C'est qu'il y a une disharmonie entre le propos et la mimique, et la posture. Ça ne cadre pas. Alors qu'après, quand il rentre au CP, il non seulement il pense à ce qu'il va vous raconter, mais il pense aussi à la posture. Donc il rajoute la posture. Pour faire vrai, parce qu'il sait, à ce moment-là, que la logique, c'est qu'on se pense selon la vérité. Mais quand il est plus jeune, il a ce... Hein, comme même si le propos est que logique, mais tu en sens bien, on dit... parce que le comportement, parfois, trahit, hein, les mimiques, tout ça. Il ne sait pas encore faire. Parce que l'enfant, lui, il apprend à mentir. Hein. Il ne sait pas, il apprend, il s'entraîne. Et il voit les premiers effets. Quand il se rend compte que les premiers effets sont concluants, il dit, ah, c'est super. Donc, il ne sait pas ceci, elle ne sait pas cela. D'accord ? Bon. Mais au début, il se fait prendre parce que justement, il ne sait pas le faire. Et quand il se fait, c'est beaucoup plus fin. On l'attrape plus difficilement. D'accord ? Bien. Donc, cette fabulation... C'est un procédé pour l'enfant pour gérer les problèmes gênants. C'est pour cela qu'il a besoin, qu'il s'invente un personnage hein, qui a fait les choses. Même quand il est seul, certains enfants se créent un personnage. Et tout ce qui a de négatif, c'est lui, forcément, ou elle. C'est jamais lui. C'est pas du mensonge, c'est parce qu'il est embarrassé par le problème. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et pour l'enfant, ce qui compte, c'est d'être aimé. Donc, s'il se rend compte qu'il déçoit le parent parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, il va aimer un personnage, donner à l'autre personnage la dimension décevante de lui-même. Ça va se réunifier au fur et à mesure qu'il grandira, qu'il saura gérer les deux en lui. Mais rappelez-vous, entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est trop ténu. Il ne sait pas encore bien gérer les deux, le va-et-vient. Donc, il va avoir un personnage de secours. Et dans les dessins animés, dans tous les les histoires même qu'on lui raconte, il va s'identifier, il va aimer un personnage en particulier. Ce personnage-là va être porteur à la fois de la représentation positive de lui. Et l'autre personnage qu'il va bien aimer aussi, ce sera tout, hein, la représentation négative de lui. Ça, à l'âge adulte, on arrive à le gérer. Tant bien que mal, hein, quand même. Hein. Pas facile, hein, quand même. Hein. Bon, mais l'enfant, lui, il fait ça pour... Donc, la fabulation vient gérer les choses gênantes. Et la particularité de la fabulation, c'est que l'enfant vous bricole une réponse. Et vous avez des chrétiens qui vous, qui, devant des problèmes, d'accord, par rapport à Dieu, parfois, parce que parfois on a l'impression que Dieu joue contre son camp, et parfois il nous met dans la mouise, on n'y comprend rien du tout, et vite, vite fait, il nous perd en route, eh bien, pour le rattraper, on bricole quelque chose. Aussi. D'accord ? Et puis, les enfants vont aussi utiliser la suggestion. C'est-à-dire, l'enfant va vous poser une série de questions. N'est-ce pas ? Il y a un âge en particulier, l'âge des pourquoi. Mais même si on dépasse l'âge des pourquoi, il va continuer à vous interroger. Et pourquoi tu fais ça? Et tu vas où? Et pourquoi tu ne m'as pas donné? Et pourquoi tu me dis non? Et pourquoi non? Et pourquoi je ne peux pas jouer à la PlayStation? Et pourquoi pas aujourd'hui? Et pourquoi... D'accord? Bon. L'enfant? Bon. Et il persévère dans ses questions. C'est-à-dire... Il pense qu'en insistant auprès de vous, il réussira à vous faire changer votre point de vue. D'ailleurs, il vous suggère une autre réponse. Il vous propose, d'accord ? Alors, en fonction de l'âge, ils sont plus habiles. Bon. On sait quand ils sont un peu trop gentils, ce jour-là. Les parents se disent, qu'est-ce qu'il aimerait bien nous demander? D'accord, hein? Voilà. D'accord, la suggestion ici, c'est, si je suis gentil, j'obtiendrai, je parviendrai à obtenir ce que je veux. D'accord? Bon, ça c'est des enfants, et c'est normal qu'ils soient enfants. Mais quelquefois, on fait ça avec Dieu aussi, hein, quand même. Hein.
Mais c'est quelque chose, des fois, que le parent lui-même peut inculquer à l'enfant. Il dit, si tu es gentil, je... Si...
C'est vrai, mais en fait, sans que le parent ne le dise, comme c'est le parent, c'est du parent qu'ils ont, ils obtiennent tout. T'as vu tes jolies chaussures? Ah, c'est ma maman qui me l'a acheté. Et ta jolie, et ton joli pantalon? Oh, c'est ma maman qui me l'a acheté. Oh, et c'est mon papa qui me l'a donné. Ah, et tout ce qu'il raconte vient de papa et de maman. Donc, il ne tient pas à perdre sa source de bénédiction. D'accord ? Parce que sans cette source de bénédiction, qu'est-ce qu'il devient ? Il est perdu. D'accord ? Donc, même quand le parent ne le dit pas, compte tenu du fait que les parents pourvoient tous ses besoins matériels et affectifs, l'enfant lui-même va mettre en place des postures de ce type. Il y a à la fois ce que les parents disent, mais il y a aussi ce que l'enfant propose lui-même. Et d'ailleurs, les parents se rendent compte quelquefois que l'enfant propose des comportements ou des choses, des attitudes qu'ils n'ont jamais. D'ailleurs, il les repère très vite parce qu'il ne repère pas du connu. Alors, il se demande, qu'est-ce qu'il voudrait bien, hein? Ou qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? D'accord? Vous décodez parce que, par la tête, il espère bien, ainsi, et puis il va revenir à la charge. Vous dites non une première fois. L'enfant ne se contente pas du premier non. Il va revenir, persévérer pour vous suggérer de façon plus ou moins implicite de changer d'avis. D'accord ? Et il espère bien, d'accord, qu'il arrivera à modifier votre attitude. Bien. Alors, pour terminer cette partie introductive, j'aimerais vous dire que deviennent ces attitudes à l'âge adulte, ces traces, et en particulier le magique. Donc, une fois devenus adultes, nous gardons des traces de ces comportements de l'enfance liés aux religieux. Et chaque fois que l'adulte confond son monde intérieur et le monde extérieur, réapparaît, parfois momentanément, ces phénomènes de je viens de l'écrire. Et l'un des domaines où ça apparaît facilement, enfin, facilement entre guillemets, hein, c'est lorsqu'on a besoin d'un avis, hein, ce qu'on dit couramment, chercher la volonté de Dieu. Où on voudrait avoir un avis du Seigneur sur quelque chose, sur une décision, sur savoir un conseil, hein, de lui. On va voir. La plupart du temps, on écoute ce qui se passe au-dedans, la voix intérieure. Et toute la difficulté, c'est comment distinguer hein? Sa propre voix intérieure et ce qu'il peut nous dire, nous. Et ensuite, cette intuition intérieure, pour essayer d'avoir la garantie, on essaie ensuite d'être attentif à l'extérieur pour voir si on retrouve pareil. Mais c'est exactement ce même phénomène qu'on mobilise. Parce qu'on est dans une situation où on aimerait trouver, comme de façon presque magique, une réponse aux choses. Ça va ? Et c'est normal. Plus on est jeune dans la foi, plus c'est difficile. C'est au fur et à mesure de la maturité qu'on commence à repérer les différences. Mais dans un premier temps, hein, on se dit, c'est peut-être moi. D'ailleurs, on se pose la question. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que ça vient de moi, ce que dit le Seigneur ? Alors, certaines personnes qui donnent des prophéties devraient se poser la question. Parce qu'il y a des prophéties qui sont juste le dialogue intérieur des gens. Bien. Lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, ça change. Vous avez remarqué ? Les merveilleux parents deviennent des parents nuls. Plus que nuls. D'accord ? D'ailleurs, on devrait les recycler, d'ailleurs. Cela. Bien. Lorsque l'enfant reprend à son compte, donc ses parents Dieu, à l'adolescence, il prend, c'est pas seulement l'adolescence, hein, déjà vers 9-10 ans, il commence à se rendre compte que les parents ne sont pas parfaits. C'est sa grande découverte. D'autant environ 9 ans. C'est pour ça qu'il s'invente, beaucoup d'enfants se disent, mes parents ne sont pas mes vrais parents. On a été confié à ces parents-là qui sont décevants, mais mes parents sont des riches qui sont partis en voyage. N'avez pas entendu ça? Il n'y a pas longtemps, il y en a quelqu'un qui me dit, mais je pensais, pendant longtemps, j'ai pensé que mes parents n'étaient pas mes parents. C'est une façon, parfois souvent, cette dimension-là, on le dit, c'est une façon d'atterrir et de comprendre que les parents Dieu ne sont pas si parfaits que ça. Ils sont décevants. D'accord ? Non seulement ils nous disent non, mais ce n'est pas tellement ça. Mais ils se montrent injustes envers nous. Dans les conflits, ils ne sont pas toujours justes. Donc, ces parents Dieu sont détrônés, c'est vrai, en particulier chez l'ado. Hein. Mais la représentation des parents Dieu n'est pas détruite pour autant. Si l'ado ou l'enfant, quand il commence à être déçu de ses parents, dit ces dieux-là ne sont pas des bons dieux, mais il va se chercher encore d'autres dieux humains. Il va passer des parents, d'accord, au moniteur de l'école, à l'enseignant qui l'a dit, d'accord ? Il va changer de Dieu, mais son Dieu sera encore un Dieu humain. Il va encore l'idéaliser. La personne sera sans défaut. Elle sera parfaite. D'accord ? Même si le parent lui dit que c'est pas juste. mais il ne croira pas. Jusqu'à ce que, dans la réalité, la personne déçoive. Et au lieu de chercher, il va devoir faire donc ce détour de cet autre Dieu avant d'aller vers le transcendant, la rencontre. D'une manière ou d'une autre, il va essayer, comme il est plus âgé, il a la capacité de manipuler l'abstrait, les pensées abstraites, la liberté, la machin, les pensées comme ça. Bon, maintenant c'est l'écologie, d'accord, la protection de la planète. À une époque, c'était la liberté. Mais plus maintenant, chaque génération a la sienne. Bon, là, c'est la protection de la planète. Donc, toute l'idéologie qui va avec. Bon, la protection de la planète va être une façon pour pouvoir protéger la planète et maintenir cette idéologie. On va se chercher des figures. Des figures pour ça. Donc, ces mouvements-là ont leur figure, c'est-à-dire leur maître à penser. Ce maître à penser n'est autre que le parent Dieu. Mais en mieux, en dehors de la maison. Et lorsque on se convertit, même quand on est né dans une famille chrétienne, je ne vous apprends rien, l'enfant aussi doit se convertir. Ok ? Forcément, il doit à un moment donné passer de la foi de ses parents à la sienne. Hein ? Même si ça ne se fait pas de façon spectaculaire, ce n'est pas grave. Eh bien, quand il démarre ici, il démarre avec les parents Dieu. Parce que la personne, pour pouvoir amorcer ce processus, il aura besoin d'une personne guide. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec la figure qui va symboliser le mouvement, ce pourquoi il milite, si c'est l'écologie. Il va avoir un maître à penser. Quand il se convertit, il aura besoin d'une personne guide qui va être aussi son maître à penser. Ça, c'est la première étape de la maturation de la foi. On est passé des parents Dieu, mais vous avez vu, on n'a pas encore laissé les parents Dieu derrière nous. On a changé, on a gardé la représentation, on a rempli simplement avec quelque chose de différent. Cette personne guide, que va-t-on lui demander ? On va lui dire, explique-moi les choses. Et tout ce qu'elle nous dira, on croira, on ne mettra pas en doute. Même si, après coup, on se rend compte qu'elle nous a dit des bêtises. À ce moment-là, on ne le sait pas encore. En fait, on est passé de nos parents Dieu à cette personne guide. Ça peut être le pasteur, ça, n'importe qui. Mais quelqu'un qui va nous dire en quoi consiste la foi. Et ça, c'est vrai, quel que soit le contenu de la foi. Si tu es musulman, tu vas chercher un parent guide pour le Coran. Si tu es bouddhiste, tu vas chercher quelqu'un que tu dis être initié. C'est ça la particularité. La personne va savoir les choses ou va dire connaître les choses. Et cette première étape, on l'a appelée la foi indifférenciée. C'est comme un parrain, une marraine. Et d'ailleurs, si la personne va à la réunion, on y va. Si elle n'y va pas, on ne va pas. À cette étape, on n'est pas capable d'y aller seul, même si elle n'y va pas. Et à cette personne guide, on en aura besoin parce qu'elle va jouer le rôle de connexion. C'est-à-dire, cette personne guide va permettre de construire le premier lien avec le Seigneur. C'est vrai aussi si vous faites la philosophie. Si vous voulez y aller, vous allez chercher quelqu'un qui va dans ce club et c'est elle qui va vous introduire. Si vous allez, vous êtes supporter de PSG et vous voulez devenir un vrai supporter de PSG, donc vous allez chercher aussi une personne guide. Dans toute la personne guide, celle, vous allez vous habiller comme elle s'habille. Vous allez prier comme elle. On va être dans l'imitation comme fait l'enfant. C'est exactement ce que fait l'enfant pour son parent Dieu. D'accord ? Cette première étape où la personne découvre ou redécouvre, si c'est nécessaire, Dieu, cette personne guide va servir, lui permettra plutôt de construire une relation privilégiée avec Dieu. C'est-à-dire que elle va passer par la personne guide pour pouvoir construire une relation avec Dieu. C'est une relation qui a la particularité d'être basée sur les émotions. Elle est très émotive. Je ressens que Dieu est là, donc Dieu est là. Je ne ressens pas Dieu, Dieu n'est pas là. D'accord ? Et c'est normal. Et cette personne guide aussi va jouer un rôle important dans la vie, dans la suite. Et là, on verra, à chaque étape, il y a un risque de déviance. Il y a deux déviances possibles par rapport à cette personne guide. Soit la personne guide surprotège, accapare la personne et la rend dépendante. Elle est comme contrôle, elle la contrôle. Généralement, la personne guide ne lui laisse pas l'accès à d'autres personnes. Non, c'est ce que je te dis, moi, de la Bible, qui est vrai. Ce n'est même pas ce que dit, par exemple, le responsable ou autre, ou une autre personne, qui pourrait être très mature. Bon, non, 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 c'est ce que moi, je te dis, qui est vrai. D'accord ? Bon, donc, cette personne guide peut envahir le territoire de la personne. Vous avez l'autre dérive, c'est que la personne guide la lâche trop tôt. C'est comme la laisse orphelin. C'est, par exemple, on peut voir ça dans les profils, par exemple. Par exemple, si c'est une communauté, ce qui te donne ta valeur spirituelle, c'est le nombre de personnes que tu amènes. D'accord ? Eh bien, la personne guide va se contenter de remplir, enfin, comme on remplit, hein, et va... Une fois que la personne sera venue une ou deux fois, elle va lui dire, bon, elle doit se débrouiller pour venir tout seul. Moi, j'ai d'autres personnes à aller chercher. Et une fois arrivée aussi dans la communauté, eh bien, elle va reprendre son clan et puis la personne va être laissée là et elle ne viendra plus. Elle va être abandonnée, sauf si il y a une autre personne guide qui surveille et qui récupère, d'accord, pour son compte, cette personne. Mais ça peut être aussi quelqu'un de mature et qui considère qu'on ne peut pas laisser un jeune converti comme ça sans lui parler, que ce n'est pas juste. Donc il va essayer de la récupérer, de l'accompagner, de lui parler et donc faire en sorte que la personne continue de venir. Et là, ce n'est pas pour la récupérer, mais c'est pour ne pas la laisser orpheline. Pendant cette première phase, où la personne, le nouveau converti, confond présence et amour de Dieu, il ne voit pas encore les défauts de la communauté, d'ailleurs, c'est tout beau, il idéalise, mais c'est une période importante parce qu'elle va permettre d'établir deux bases fondamentales dans la relation, dans sa spiritualité en devenir, si vous préférez. Elle va découvrir une chose, c'est qu'elle est aimée du Créateur. Et donc, parce qu'elle est aimée du Créateur, elle a le droit d'exister et de s'épanouir. Ça va ? Bien. Deuxième chose qu'elle va découvrir pour son devenir, pour sa spiritualité, c'est qu'elle a une place maintenant dans le cœur de Dieu et qu'elle a une vocation propre. Il y a un projet de vie pour elle et une espérance pour elle. Si on prend ce processus de la foi fonctionne quel que soit le contenu de la foi. C'est pas seulement la foi chrétienne. C'est pourquoi j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la philo, l'exemple du club de foot. Pareil, la personne guide qui m'emmène dans cette association, dans ce club de foot, elle peut à la fois m'accaparer, aussi pareil, ou me délaisser. Et je vais changer de club en disant, ben celui-là, sont nuls, ne sont pas accueillants, jusqu'à ce que je trouve une personne guide qui va m'accompagner pour que je connaisse, d'accord, la chanson, hein, de supporter, la première chose à savoir, la chanson, il faut que je l'apprenne, hein, tous les codes vestimentaires, hein, les lieux de rendez-vous, avant, après match, c'est pareil. Parce que c'est un objet qui donne du sens à sa vie. Hein, d'accord ? Bien. Mais ici, je donne l'exemple de la fraude cruelle, ça marche pareil. Ensuite, après cette étape, vient une seconde qu'on appelle la foi qui s'approprie. Au départ, c'était la foi indifférenciée, maintenant elle s'approprie. Alors, que fait la personne à ce moment-là? Elle imite. Bien sûr, sa foi est toujours magique. Elle pense toujours qu'elle y est pour quelque chose, des exaucements de Dieu, parce qu'à cette époque, Dieu exauce rapidement. Hein, d'accord, hein? On n'a même pas encore... Hein? Il fait prier, il donne. D'accord? Il anticipe. Ça paraît magique. Comme les parents. Vous savez, on a le même mécanisme. Dieu, sauf que la personne demande, elle l'a assez rapidement. Bon, après, comme je dis, quand il ferme le robinet, on attend plus longtemps. Pour nous faire grandir. Mais c'est une période faste. D'accord? C'est super. T'as à peine demandé, il exauce. T'as à peine pensé, il exauce. Tu penses que ça va marcher tout le temps comme ça d'ailleurs? Tu t'imagines pas un jour que ça va s'arrêter? Donc, la foi émotionnelle, l'élément magique, la foi magique, elle est entretenue, entre guillemets, par les interventions aussi de Dieu. Il faut que Dieu intervienne pour assurer la personne que c'est bien. Voilà, c'est le travail de l'esprit qui dit oui, c'est bien le chemin. Et de ce fait, hein, ces manifestations laissent à penser qu'il y a quelque chose de magique dans le lien avec Dieu. D'accord ? Bon. C'est la période aussi que la personne veut avoir une foi opérationnelle. Elle cherche à faire des choses dans l'église. Parfois, elle demande. Mais pour faire, elle va questionner. Elle va vous demander... Pourquoi on fait la scène une fois par mois? Pourquoi c'est d'autres font, c'est pas tous les dimanches? Elle va beaucoup questionner, d'accord? Pour essayer de comprendre comment ça marche et faire. Faire parce qu'elle voudrait bien s'engager, faire quelque chose, être aussi un témoin comme l'autre. C'est la période où elle aime beaucoup les témoignages spectaculaires. D'ailleurs, vous allez, en fonction du niveau de maturation de la foi, nos lectures dans ce domaine changent. Au départ, si vous leur donnez une... D'accord, ils ne sont pas férus des livres d'enseignement et tout ça. Non. Là, c'est les témoignages. Elle adore les témoignages, les livres de témoignages. Hein, comment quelqu'un s'est converti, Dieu a répondu. Tous les livres qui parlent comment prier pour que Dieu nous exauce tout de suite. Enfin bref, tout. Il y a la bibliographie aussi qui va avec. Hein. Vous n'avez pas connu ça? Si, quand même. Hein, on a connu ça. Bon, quand même. Heureusement que c'est loin derrière nous. Quand même. Ça veut dire qu'on a avancé tout de même. Mais c'était une période merveilleuse. Et bien cette période merveilleuse constitue ce qu'on appelle le noyau d'amour avec Dieu. Et c'est quand ce noyau d'amour a existé de cette manière-là, alors dans les difficultés, on se rappelle de ça et ça nous aide à continuer. C'est là qu'on va puiser devant les difficultés, devant les silences de Dieu, cette histoire-là. Et bien le couple aussi. Quand un couple doit vivre ce moment magique au début de la vie du couple, parce que c'est là qu'il ira puiser les choses pour leurs difficultés. C'est un noyau important de la relation. Une relation au départ doit être formidable, magnifique. Nous transcender, nous transporter, avoir le sentiment que c'est divin. D'accord ? Même, voilà. Eh bien, quand ça se constitue ainsi, ben c'est là qu'on va retrouver, puiser hein, ce qu'il faut hein, pour continuer avec le Seigneur, mais aussi dans la vie de couple. Ces interrogations va construire quelque chose chez le chrétien, c'est la capacité à se questionner sur la foi, sur Dieu. Avant, il ne se questionnait pas. Il acquiesçait tout ce qu'on disait. Il ne se questionnait pas. À cette étape, il commence à demander, à questionner, sans remettre en cause. Hein. Il questionne pour comprendre, pour adhérer, pour faire comme, pour imiter. Mais ce faisant, il mobilise aussi, il apprend à se questionner sur Dieu et sur sa relation à Dieu. Bien. À cette étape aussi, on peut avoir des déviances. Et la déviance qu'on aperçoit très souvent, c'est la confusion entre l'être et le faire. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont continuer à faire, à faire, à faire pour Dieu. Alors que c'est une étape qu'on fait beaucoup pour le Seigneur. On fait, on fait, on fait. Or, il faut passer de faire pour Dieu à faire avec Dieu. Ça, c'est l'étape d'après. Or, ces personnes, n'ayant pas, vont continuer à faire. Pour eux, s'ils font pas ça, s'ils vont pas au cul, s'ils font pas ci, Dieu ne sera mécontent. Ils sont prisonniers du faire. Ça, c'est le premier risque. S'ils ne font pas, ils auront l'impression de ne pas être aimés de Dieu. Parce que ici, comme l'enfant, imagine, c'est en faisant qu'il capte, qu'il est aimé, qu'il n'a pas conscience qu'il est aimé parce que le parent a choisi de l'aimer. Et bien, comme l'enfant, et bien la personne qui fait pour que Dieu l'aime, a l'idée que ce sont ses actes qui déclenchent, entre guillemets, l'amour de Dieu envers elle. Or, c'est pas vrai. Dieu a décidé de nous aimer parce que ça lui plaisait. On va pas le contrarier d'ailleurs pour ça. Si ça lui plaît. On va voir. Oh non, d'accord. Donc, la première déviance, c'est ça. La personne puisse... Il faut faire pour être. Donc, ils ont de l'activisme. Et oh, le risque aussi, c'est d'accepter de faire des choses qui ne conviennent, qui ne sont pas de nos... Donc, la personne n'a pas le don et la capacité. Comme c'est pour le Seigneur, la personne ne va pas oser dire non, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas faire. Elle va faire, mais comme elle ne sait pas le faire, ça va provoquer du stress, de l'insatisfaction, de la culpabilité pour rien. Elle aura du mal à dire non, je ne sais pas faire. Parce que pour elle, si je dis non, Dieu va être en colère. Hein? On voit bien la représentation que la personne va avoir de Dieu. Et puis, la deuxième déviance, c'est qu'elle va construire sa spiritualité autour de slogans, c'est-à-dire de versets bibliques, qu'elle va juxtaposer. Ça, je l'ai déjà entendu, mais plein de fois. Je me dis, mais comment? Et ils vont évangéliser avec ça ensuite, hein? D'accord, repens-toi parce que la Bible dit qu'il faut se repentir parce qu'après la mort vient le jugement. Et si, voilà, enfin bref, vous savez, je ne saurais pas faire parce que je ne sais pas faire ça. Super. Mais j'ai entendu, et parfois dans les métros. D'accord, je l'ai déjà entendu dans les métros. Des chrétiens qui évangélisent dans le métro. Bon, je ne parle pas de quelques-uns que je rencontre qui eux sont dans le délire mystique. Je ne parle pas de cela quand même. Hein. Bon, et qui parlent du Seigneur et qui répètent ces choses-là. Les personnes vous disent un verset, ils juxtaposent un deuxième verset et un troisième verset. Et la juxtaposition des versets, c'est un langage. C'est-à-dire que chaque verset est magique en lui-même. Non. Vous n'en avez pas rencontré? Mmh. Oui, 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 quand même. Hein. Rassurez-moi. Oui, oui, oui. Et il y en a aussi qui... Ils ont des formules de prière, d'ailleurs. Les mêmes. La même prière. D'ailleurs, quand il a commencé, je ne parle pas de chez vous. Hein. Je parle de la communauté. J'en avais été quelques-uns comme ça. Dès qu'elle démarrait, on savait que c'était elle. Bon, on connaissait la voix. On connaissait le début de la prière et la fin de la prière. Quelquefois, je dis, Seigneur, il devrait mettre une cassette quand même. Comme ça, elle d'ailleurs quoi, en répétant chaque fois, elle ne changeait jamais ses prières. Ça commençait avec la même formule, ça se terminait avec la même formule, et entre deux, c'était les mêmes choses qui étaient dites. Et dimanche après dimanche, enfin, pas seulement les dimanches, rencontre après rencontre, dès qu'elle priait, hop, et elle aimait prier, parce qu'elle avait toute la juxtaposition, hein, des versets bibliques magiques, bon, pour pouvoir parler au Seigneur. Bon. Et pour elle, bien sûr, c'est des slogans et des citations bibliques hors contexte. Ah, ça aussi. Il y a des jours, ça me donne mal à la tête. Ça, ce sont des déviances possibles. Alors, bien sûr, quand les gens sont là, imaginez que, comme j'ai dit Seigneur une fois, j'ai dit Seigneur, écoute, un jour, il faudra que tu les préviennes quand tu ne fais pas les choses comme d'habitude. D'accord ? Ces personnes ont du mal à s'adapter au changement, a du mal à imaginer qu'il y ait un rapport plus riche au Seigneur et au texte. D'accord, hein? Bon, quand ça ne s'accompagne pas aussi, ils sont toujours dans un combat spirituel sans fin. Et pourtant, c'est vrai qu'on sait bien, on est d'accord, hein, ça existe. Bon, mais quand je dis sans fin, c'est que tout est expliqué par ça. D'accord ? Tout est expliqué par ça. Et puis, et donc c'est une foi qui s'appauvrit. D'accord ? Qui va se figer. Et ce qui va se, la croyance fausse qui va se construire, c'est l'idée, c'est en agissant sans penser que Dieu est heureux. Voilà ce que Dieu attend de moi. C'est que j'agisse sans me questionner, sans penser. Donc, la perception d'un Dieu qui veut qu'on soit des robots.
La pensée, c'est dangereux.
La pensée est dangereuse.
Réfléchir, c'est commencer à désobéir.
Ah, mais je vois qu'il y en a qui connaissent. Il y en a qui recommencent, qui en ont rencontré. Hein, d'accord ? Tu as dit quoi ? Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ah, absolument. D'accord ? Mais ça, c'est pas le Dieu révélé. Il nous dit le contraire, le Dieu révélé. D'accord ? De réfléchir. Paul nous dit de faire la démonstration. Enfin, bref, de la foi, de penser la foi, de... Voilà, donc, et c'est dit, ce sera difficile. Hein? Ce sont des personnes avec qui il faut, je dis souvent, c'est un peu comme Paul dit à Timothée, évite les discussions folles qui ne mènent nulle part. Avec ces personnes, il faut les écouter avec bienveillance. C'est même pas essayer de les discuter, parce qu'ils sont dans une déviance spirituelle, c'est une pathologie. Là, ils se sont... Bon. Comme dit Jacques, ils ont un pistolet à six coups comme les cow-boys. Ils ont premier verset, deuxième verset, troisième verset. Excusez-moi. Bon. Bon. Bien. Heureusement, la plupart d'entre nous évitons cet écueil, ces deux déviances. Et nous continuons à l'étape 3. À l'étape 3, c'est la foi concrète, maintenant. Alors, l'étape 3 de la foi concrète, c'est un temps d'harmonisation entre les croyances et les actions. C'est à l'étape 3 que j'ai le sentiment réel que Dieu peut m'entendre, d'accord ? Et que ce lien sera permanent. Hein ? Avant, je le savais dans ma tête, intellectuellement, mais ici... C'est en moi, c'est un sentiment fort en moi. Je sais que maintenant, dans ce lien entre Dieu et moi, il est solide. Il n'est plus vacillant. Il est devenu solide et je sais que il sera maintenu jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça correspond à mon désir, que ce lien soit permanent. Bien. De ce fait, je commence à comprendre un peu mieux les textes. Quand je lis, ça me paraît moins obscur. Il y a plein de petites choses que je comprends par moi-même, sans l'avoir entendu. Bon. Et puis, le danger ici, alors là, c'est trompeur. c'est que la sensation de bien-être qu'on éprouve à l'étape 3, elle est sécurisante, stabilité, nous donne le sentiment qu'on est arrivé. On a une sensation d'être arrivé au niveau de nos émotions. C'est pour ça que beaucoup de gens restent à l'étape 3. Elle harmonise les deux premières étapes, elle est incertaine. On a l'impression, on ne sait pas trop. Là, on a l'assurance, on sait, on a compris, on est capable de, on est suffisamment autonome pour faire les choses, pour lire, pour y aller quand on veut, pour on crée des liens de la communauté. Bref, ça y est, on a de l'assise maintenant. Et le sentiment intérieur, c'est ça y est, je suis arrivée à comprendre Dieu, à connaître Dieu. Ça y est, je sais. J'ai plus besoin réellement de le connaître. C'est la sens. Or, c'est pas tout à fait vrai. Il y a encore à. On doit encore continuer. Bien. Au cours de. À cette étape aussi, on a déplacé nos référents. Nos référents, c'est le responsable de la communauté et les anciens. Ce que peut dire la personne guide n'a plus d'influence. Ça ne touche plus. Parfois, certains rêvent d'avoir une vie comme celui du pasteur. Je l'ai rencontré aussi. Bon, bref. Comme c'est des responsables. Et à ce moment-là, à cette étape, il y a une idéalisation des responsables. Ils sont sans défaut. Ils sont ce que Dieu a mis pour nous guider. La représentation qu'il y aurait ces responsables, que ce soit le pasteur ou les anciens, auraient une petite porte le matin, hein, une petite échelle où ils montent pour aller au ciel spécialement, que laquelle celle qu'on ne connaît pas, hein, et qui redescendrait. Hein, et le week-end. Voilà, c'est la période où on pense que, d'accord, on comprend qu'il y a pas mal de choses qui savent, hein, on comprend qu'on sait des choses, mais il y a encore on a beaucoup à apprendre. Et donc, nos modèles, Asmo phase 3, le modèle, c'est le responsable des anciens. Ou un responsable ou un ancien. D'accord ? Mais ce n'est pas les autres. Et puis aussi, à cette étape, comme j'y suis arrivée, et comme mon église est parfaite, je dis à tout le monde, venez dans mon église. Si tu écoutais mon pasteur, tu te convertirais une seconde fois. Là, d'accord. Et vous cherchez à vous convertir, même si vous êtes déjà chrétien. Puisque ce sont les rites, les symboles, les formes, la gestion, maintenant, le rituel de la foi, hein, auquel il était habitué, et où il prend plaisir, qui pour lui est la forme unique de foi, d'expression de la foi. Il a du mal à comprendre, hein, que Dieu ne fasse pas les mêmes choses partout. C'est pas possible. Et à cette étape, il prend encore les textes bibliques de façon littérale cette fois-ci. Très subjective et littérale. Coupée du contexte. Et c'est l'époque où certaines personnes, de façon plus ou moins accentuée, cette représentation qu'on a appelée. Ce qu'on a appelé Jacques et moi, celle de la petite rivière. Alors, il y aurait le monde avec ces poissons pourris, tous ces gens déformés, là, hein, oh là là, oh là là, là 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 là, ça c'est le monde. Bien. Et puis, il y aurait le petit, hein, le ruisseau à côté, qui est l'église. D'accord ? Et l'évangélisation, c'est de faire passer, de mettre dans ce canal, d'accord, ces personnes déformées, pour les rendre un peu, qu'ils deviennent des petites fleurs. Bien. Hein? Des transformations. Et puis donc, lorsque, d'accord, ça n'existe pas dans la réalité, hein, mais dans la tête des gens,
ils ont confondu. Hein, Jésus dit qu'on n'est pas du monde. Hein, ils ont oublié, hein, ils le transforment. Voilà. Et donc l'évangélisation, c'est de faire passer les gens ici, pour aller dans l'eau claire. Hein. Donc ils se transforment ici. Hein, ça, hein. Et puis si un jour on voit quelqu'un de déformé, de mal de poisson pourri, enfin bref, quelqu'un de très difforme, on se dit, mais comment ça? Hein? Comment ça? On le remet déjà, on cherche à le remettre là. Hein? On fait pression sur lui pour qu'elle se transforme en petite fleur, et c'est comme on va faire. Hein? Ou bien, on non seulement fait ça, il y a un double mouvement. Et on dit, mettons un peu plus de filtre hein, pour filtrer tout ça. Pour être sûr qu'on ait les fruits. Mettons un peu plus de filtre. Mais ça n'existe pas. D'accord? Il y a des gens qui pensent un peu à cette étape, à l'étape 3. Ça, c'est une déviance possible. C'est à force de penser que c'est dans ma communauté qu'il y a la vérité. Toutes les autres sont dans l'erreur. Alors, d'accord, l'évangélisation et même le rapport au monde extérieur consiste à créer, on est dans un autre monde. Et là, on va faire passer ceux-là de là en les transformant pour qu'ils soient à notre image. Mmh. Et s'ils ne sont pas à notre image, pouf hein? Et en plus, on va mettre des règles encore plus hein, pour être sûr qu'on n'ait pas de surprise. Vous en avez rencontré aussi, je suppose.
Bon. Peut-être un peu dans ce
fonctionnement. je ne pensais pas à quelqu'un d'ici. D'accord? Bon. Mais à l'état 3, on a tendance à faire ça. Et on cherche la vraie Bible. On cherche la vraie vérité. On cherche l'absolu. Alors que la vérité est en Christ. C'est lui tout seul. La vérité avec un grand V, c'est lui. D'accord? Et c'est lui qui est garant du lien, de la relation. C'est lui le garant. Et Paul nous dit que c'est une garantie éternelle. Dans Romains 8, à partir de 28, que rien ne va nous séparer. 28 jusqu'à la fin. D'accord? Il est garant de ça. Bien. Mais à la fin de cette étape 3, on sort de cette troisième étape par la désillusion. Elle est enfin arrivée. La désillusion des parents Dieu. Parce qu'on est parti, on a commencé avec nos parents, d'accord? Ensuite, on a quitté nos parents pour d'autres humains. Et l'étape 4, c'est la désillusion. On s'aperçoit que l'humain n'est pas parfait, même s'il est chrétien. Ça, c'est la grande découverte. C'est pas cool. On le savait intellectuellement, mais ici, c'est une prise de conscience profonde. Alors là, quand vient l'étape, à la fin de l'étape 3, déçu comme on est, sonne alors avec la désillusion, la révolte et la colère. Le chrétien se révolte. Il pose des questions. Il demande des comptes. Comment est-ce possible que ce que je vois dans le texte, vous l'appelez, d'accord, vous m'avez dit que ce que vous m'avez enseigné était dans le texte. Maintenant que quand je relis le texte, je ne vois pas du tout ce que vous m'avez enseigné. Donc vous m'avez menti. Le sentiment fort de cette époque, de l'étape 4, c'est la foi qui conteste. C'est la foi qui conteste. C'est des sentiments de trahison. La colère. La déception. Certains on porte la culpabilité d'avoir été crédule. Mais pourquoi j'ai cru à tous ces mensonges? J'aimais vraiment, j'étais bête. Hein, d'accord, cru à tout ça. Bon, la crédule. Et puis, toutes ces émotions conduisent le chrétien à se dévaloriser. Conduit le chrétien à se dévaloriser parce qu'il se sent responsable de ses désillusions. Or, cette étape qui paraît être de la révolte, elle est salutaire. Parce que jusque-là, il y avait le chrétien, entre lui et il avait mis l'Église, et Dieu arrivait ici. C'est ça qu'il a fait pendant tout ce temps. Il a fait ça. Or, avec la révolte, il va devoir modifier. Dieu est toujours au ciel. Il y a l'Église et lui. Il peut être en relation ici, en relation là, en relation là.
La révolte, l'étape 4, permet de passer. L'étape 4, c'est le moment où on passe de la foi païenne, d'accord, d'accord, la représentation païenne de Dieu, de par en Dieu, au Dieu révélé. Et entre-temps, vous avez vu chez Job, la révolte a grondé, la désillusion. Hein, il y est allé à fond. Le risque aussi, ici, c'est d'être resté dans cette étape 4. De trouver des raisons légitimes pour continuer à demander des comptes. Si on se révolte, c'est vrai, mais cette révolte doit nous emmener au transcendant, qui est Dieu. Qui est le Seigneur. Et regardez, à un moment donné, Dieu arrête Job dans cette révolte. Quand elle a commencé à le traîner trop longtemps, Dieu intervient et dit, ben écoute, bon, puisque tu sais les choses, moi je te questionne. Puisque tu es capable de savoir les choses, je te questionne. La révolte est de la même nature. Parfois, les personnes se révoltent contre Dieu depuis le temps que j'attends, que je dis, d'accord. Mais quand quelqu'un a l'étape 4, il faut lui rappeler que Dieu est créateur et que Dieu est souverain. Et qu'il ne comprendra pas tout. C'est une période de grosse désillusion, mais c'est une période, quand elle est bien vécue, qui est salutaire, parce qu'elle nous permet, elle nous sort d'une foi de groupe et nous permet de passer à une foi individuelle, propre. Tout en étant en relation avec le groupe. C'est là que les siens, à cette époque, c'est à la fin de cette étape 4, parce qu'à l'étape 4, il ne prie pas, il ne lit pas, il ne fait rien. Hein, et hop, voilà. Mais à la fin de l'étape 4, il va demander des lectures, des enseignements bibliques. C'est-à-dire, ce sont des gens qui voudront étudier vraiment le texte. Ce sera leur demande. Les livres magico-religieux, de miracles, tout ça ne va plus les intéresser, n'intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est une nourriture solide. Donc après l'étape 4, elle nous conduit à l'étape 5, qui est la foi personnelle et nous permet d'atteindre la maturité. L'étape 5, c'est la foi personnelle. Là, d'accord ? C'est la foi personnelle qui permet d'atteindre l'étape 5, c'est une foi individuelle. C'est à, on a conscience qu'on rendra compte pour soi-même. Donc on a intérêt. Hop. Donc, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas nous engage avec des conséquences. Et c'est une époque qu'il est capable de gérer le paradoxe. Toute la Bible est sur un paradoxe. Et l'un des paradoxes, c'est le royaume de Dieu est déjà là et le royaume de Dieu n'est pas encore là. Quand on est sur un axe, eh bien, l'étape 3, par exemple, on n'est sur qu'un axe. Le royaume de Dieu est déjà là, donc tu ne dois pas avoir de maladie, tout doit passer. Non, le royaume de Dieu est déjà là, mais n'est pas encore là. Un autre paradoxe. Dieu est juge et Dieu est souverain. S'il est juge, c'est que je suis libre. Et s'il est souverain, c'est que je ne suis pas libre. Et pourquoi il me juge? Ok? Il donne autant à ses bien-aimés en dormant et prier aussi pour leur recevoir. Tu fais les deux. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre à composer à chaque fois. C'est bien que on a, en fait, hein, la vie, c'est ici. Tantôt, c'est là. Tantôt, c'est là. Hein. On a plein de choses comme ça.
Allez, les saluts, ça c'est la foi ou les œuvres? D'accord? C'est ça le paradoxe. À chaque fois, il y a deux choses à tenir. Le paradoxe, c'est deux vérités qui ont la même origine, mais ces deux vérités sont irréconciliables. C'est ça le paradoxe. Ces deux vérités qui ont la même origine, elles sont irréconciliables. Quand on atteint la foi individuelle, eh bien, on accepte que le texte est paradoxal. Il y a autant de versets qui disent quelque chose, il y a autant de versets qui disent le contraire, parfois, sur certaines choses. Donc, si je suis. Voilà. C'est-à-dire que les deux vérités, c'est vrai. Ce qui va conduire, c'est le contexte, la situation. En fonction des situations, on accepte d'être donc cette mobilité de Dieu et cette dynamique de vie de Dieu. Eh bien, nos prières changent quand on a le paradoxe. On n'exige plus. On sait que Dieu fera. Mais comment ni quand? Alors qu'avant, on sait que Dieu fera, avant cette étape 5 de la maturité de la foi, avant on sait que Dieu fera, et on lui dicte comment il devrait faire. Hein? Tu prends un point, si tu fais comme ça, hop! Là, tu as compris qu'il faut plus faire ça, tu le laisses ça. C'est plus possible. Parce qu'à tous les coups, il t'embrouille. Là, il faut surveiller les trains pour monter dedans. Comme je dis, tu montes dans le train, après tu reprends toujours le temps de descendre. C'est pas la bonne direction. Là, tu arrives.
Qui t'apprend de suivre.
Qui t'apprend de suivre, hein? Mais il y a des trains qui passent pas deux fois quand même. D'accord? Tu acceptes de faire un pas de foi avec confiance, en sachant que si tu n'es pas dans la bonne direction, il va t'arrêter. Alors que quand tu n'es pas à cette étape, tu attends qu'il te donne le feu vert et qu'il te donne toute la carte pour avancer. Ça te donne point A, point B, point C, mais ce n'est plus la foi si tu connais. Par définition, la foi, tu ne connais pas. Tu vois, voilà. Tu vois? La foi, moi je trouve que la foi, c'est, j'aime bien dire ça, c'est prendre un risque dans l'amour. C'est pas ça le lien dans l'amour, hein? On prend le risque dans l'amour. Tu prends le risque dans l'amour. C'est sûr qu'il va nous... Il tient à nous, hein? C'est pas seulement moi qui tiens à lui, hein, d'accord? C'est une réciprocité. Il tient à moi je tiens à lui. D'accord. Bon, on va bien trouver une façon de s'entendre. D'accord. À l'étape 5, c'est le paradoxe. Alors, il y a des gens qui ne passeront pas à l'étape 5 et qui vont, plutôt que d'aller vers la révolte, auront peur de la révolte. Parce que pour eux, se révolter, c'est pécher contre Dieu. Donc, ils vont essayer de mettre en place des fonctionnements qui vont devenir à la longue des dysfonctionnements. Par exemple, c'est-à-dire ils ont du mal à devenir un chrétien, un croyant qui s'affirme. C'est-à-dire tu prends tes responsabilités avec Dieu. Alors ils vont tout spiritualiser. Hein? Il y a des gens qui spiritualisent tout. Tout. Lui donne une explication spirituelle à tout. Pour ne pas se révolter, pour ne pas connaître la désillusion, alors, ils expliquent tout par le Seigneur sait. D'ailleurs, c'est bien que le Seigneur ne m'ait pas donné ça. Parce que le Seigneur sait que si j'avais eu ça,
et je rigolais avec ma copine.
Parce que quand je suis revenue de voyage, cette semaine, mon avion a eu 1h30 de retard. Quand j'arrive à l'aéroport, on a attendu 1 heure parce qu'il y avait un problème, de, on ne sait pas lequel. D'habitude, les bagages sont donnés assez rapidement. On a attendu 1 heure. J'ai dit, bon, je devais prendre un train vers 15h. J'ai pris vers 13h. J'ai pris mon train. Il était 16h avec tout ça. Enfin, bref. Et donc, on s'amusait parce que je monte dans le train, il tombe en panne. Je descends du train. Alors, je dis, alors, avec une amie, on dit, bon, tu sais, si tu es dans la magie religieuse, c'est que Dieu ne veut pas que tu ailles où tu veux.
où tu vas. D'accord ? Donc, ton avion est en retard, ton machin... Ou Dieu veut te protéger de quelque chose. Ça, c'est spiritualisé tout. J'en sais rien. Comment peut-on dire, parler de la part de Dieu alors qu'on ne sait pas ce qu'il pense ? Et qu'il nous a dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas les nôtres. D'accord ? Je suis quand même arrivée à bon port. Et quand je suis revenue, le train encore avait du retard. Toute cette semaine, ce qui m'arrive vraiment.
Tu parles beaucoup par les SNCF.
Hein. Mais oui, hein, t'as vu ça, hein.
Il a voulu être tout à fait. Absolument.
Tu vois.
Faut bon. Payer pour les SNCF. Hein.
Mais il faut que j'appuie pour les SNCF. Juste un coup de circonstance, quand même, ça ne m'arrive pas tous les jours. Bon. Donc, les gens qui vont tout spiritualiser, et tout, ils vont être, et la spiritualisation de tout, hein, le fait qu'ils spiritualisent tout, va les rendre passifs. Au lieu d'être actifs dans leur vie, s'ils ont une difficulté au niveau professionnel, au lieu de le gérer, ils vont prier et attendre que Dieu fasse à leur place. S'ils ont difficulté avec leurs enfants, au lieu de donner les moyens, il y a des professionnels qui savent aider. Ils vont prier, ils vont attendre. Et s'ils ont un problème de couple, ils vont en parler. Quand tu spiritualises tout, tu deviens passif. Or, la règle dans le lien avec Dieu, si j'ai bien compris quand même, c'est tu dois être actif. Tu fais ta part et je fais la mienne. C'est toujours ça. Eh bien, cette spiritualisation, on va les démobiliser. D'accord ? D'autres personnes peuvent aussi, comment dire ? Ah, on les appelle les tartuffes. Alors, ils vont développer une pathologie qui consiste à cliver leur vie. Ils ont une vie à l'église et une vie à l'extérieur. Alors, quand tu les vois à l'extérieur, tu imagines, tu te demandes est-ce que ce sont les mêmes. Ça aussi, pour ne pas se révolter. Parce qu'il y a quelque chose de révoltant. Ce Dieu-là, qui est Dieu païen, finit par... Il ne répond plus. Hein? Rien ne marche. D'ailleurs, en plus, avec la chose suivante, c'est que tu pries pour d'autres.
Ça marche.
Ça marche. Tu pries pour toi, ça ne marche pas. Alors là, d'accord, ça c'est le comble.
Tu vois, c'est le comble. Mm-hmm. Le comble du monde.
Donc, ça veut dire que tu as besoin de se dire. Donc, ou bien, ce qu'on a, nous, on a appelé les dépressifs spirituels. Ce sont des gens qui vous disent qu'ils sont dans le désert et c'est un désert sans fin. Bon, Israël est quand même resté 40 ans. Hein. Il est sorti quand même. Hein. Donc, à un moment donné, on en sort. Hein. Mais ces personnes nous disent qu'ils sont tout le temps dans le désert, sans fin, à une recherche incessante de la petite rivière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont rentrer dans le désert. Ils vont penser qu'on peut faire de cette terre un paradis. Ils veulent retrouver le paradis perdu. Or, le paradis est perdu pour toujours. On va le retrouver autrement. Ça, c'est notre espérance qui est devant nous. Mais c'est perdu pour toujours. Et puis, vous avez aussi des personnes qui sont... Ils deviennent pharisiens. Alors, ils deviennent encore plus légalistes. Et le légalisme est fait pour empêcher la révolte. On peut se révolter. Il y a tellement de gestes dans nos vies et on peut se révolter. On peut se révolter en gardant en tête quatre choses hein, dans la révolte, dans la contestation. Savoir que Dieu règne sur le monde. Dans le moment de la révolte, il est bon de se le rappeler. Que Dieu règne sur le monde et son histoire. Et qu'il intervient dans l'histoire de l'humanité par les dons qu'il fait aux hommes. La deuxième chose, hein, c'est être libre de tout modèle. Justement, notre problème, c'est ça. On a trop voulu imiter une spiritualité. Être libre de tout modèle, de notre façon d'être et de notre façon de faire. Parce que, voilà, parce que nous sommes des êtres uniques de la création de Dieu. Même si nous partageons le même but, la même espérance. Bon, Paul reprend cette idée avec d'un Corinthien, je n'invente rien. Ensuite, garder des convictions importantes, essentielles. Garder les convictions essentielles. Oui, il est ressuscité. Oui, il reviendra. Oui, il est un Dieu fidèle. Oui. C'est-à-dire, c'est là, au moment de la révolte, on a besoin de retrouver ce qui qualifie même de Dieu. C'est ce qui fait l'essence de Dieu. On a souvent besoin de le retrouver, ça. Et puis, savoir qu'on a, nous avons une place dans ce monde, ici et maintenant, pour y faire quelque chose. Dans l'histoire des hommes, on a une place. Donc, c'est à nous de la trouver. Dans la voie personnelle aussi, il y a deux dérives possibles. C'est le relativisme, c'est-à-dire considérer, eh bien, si quelqu'un fait du bien, il est forcément chrétien. Il y en a qui pensent ça. D'accord ? Ça, c'est une dérive possible. Autrement dit, toutes les vérités se valent. Hein? Il y a pas de différence. Et le deuxième risque aussi, c'est toujours rompre le paradoxe. Sortir du paradoxe. Parce que le paradoxe est un système de pensée inconfortable pour nous. Nous sommes tellement habitués à catégoriser. D'accord ? À catégoriser les choses. Même à l'école, on nous les fait faire. Les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, les machins. On a l'habitude de catégoriser, de compartimenter. Et donc le paradoxe qui consiste à accepter les deux réalités qui existent. Et parfois, dans les deux, il y en a toujours une qui a notre affinité, une qui nous dérange. D'accord ? Eh bien, comment faire coexister les deux ensemble ? C'est un système de pensée qui peut trop nous déranger et on finit par sortir du paradoxe. Ça, c'est le risque. Mais le paradoxe, me semble-t-il, de l'expérience que j'en ai personnellement, mais aussi que dans les accompagnements que j'ai eu avec les personnes dans ce domaine, le paradoxe permet de rentrer dans le repos de Dieu. Et de marquer, de nous permettre d'être gérable quand on accepte notre place de créature est différente de celle du créateur. Quand on renonce à vouloir être un peu créateur, à savoir un peu les choses, hein? D'accord ? Ben c'est une place de repos. Le paradoxe est une place de repos si on accepte de renoncer au fait de vouloir tout savoir. Et même si on ne comprend pas, c'est pas grave. On dit, mais Dieu règne. C'est que lui, il le sache, c'est important, c'est ce qui compte. Ça nous suffit largement, hein, qu'on ne comprenne pas tout. C'est pas bien grave. Lui, sait, il comprend. Et le lien, et sa fidélité, hein, et sans faille, nous dit-il. Donc, un jour, peut-être, on comprendra mieux. Mais bon. D'accord ? Ça nous repose un peu. Et puis, ça nous permet de nous occuper d'un peu de nos affaires. De balayer un peu plus de notre porte. De balayer un petit peu plus devant notre porte, hein, quand même. Comme dit Jésus, hein, enlève la poudre de ton œil et laisse la paille chez l'autre, hein, d'accord, hein. Le paradoxe nous aide un peu à ça, quand même, de temps en temps. Bien. Et puis, le dernier niveau, qui est le niveau 6, c'est la foi universalisante. Il y semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'êtres humains qui l'atteignent, ce niveau de foi. C'est quand la foi et l'être ne font qu'un. C'est-à-dire, la personne a tellement investi la cause que sa vie est au service du Seigneur. On a comme exemple Martin Luther King, Gandhi. On a aussi Nelson Mandela. Il avait tout. Après tout ce temps en prison, ben, il propose une approche qui évite que ça finisse dans un bel sens. tout ce qu'il a souffert avant, en prison, pendant des années. C'est pas que c'est rien, mais il n'en sort pas au bénéfice de l'Afrique du Sud. Sinon, ça aurait fini dans un bel sens. La commission qu'il a fait mettre en place avec Desmond Tutu a permis. Ses injustices étaient immenses. D'accord ? Mais la cause a supplanté sa propre existence. Il y a quelques personnes comme ça. Et qui nous servent aussi de repère et de modèle.
C'est la cause qui a supplanté sa propre existence ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire parce qu'il aurait pu, une fois sorti de prison, d'accord, travailler à récupérer le pouvoir pour lui-même, pour se guérir et se penser de toutes les injustices et se venger. Il ne l'a pas fait et il a tout fait. D'ailleurs, d'autres ont essayé de pousser à la houe dans cette direction. Mais il a œuvré avec Desmond Tutu pour que jamais il n'aille vers ça. Il a vu au-delà de lui-même, il a vu le pays, le devenir du pays.
Sa vocation.
Son appel.
Desmond Tutu,
particulièrement. Par Desmond Tutu, absolument. Magnifique. Moi, je crois qu'il n'aurait pas réussi cela sans l'aide de Desmond Tutu.
Exactement.
D'accord ? C'est-à-dire que, on en remet à Dieu ce qu'il doit, celui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, on lui remet ça, ce temps de justice, et en attendant, on milite pour la justice. On milite pour la justice. Voilà. Bien sûr. Et pour qu'il y ait pardon, il a fallu reconnaître. Moi, je trouve ça fantastique. Et regardez, moi je me rappelle des images, j'ai bien suivi ça de près. Mais si cet homme, on l'avait jugé, on l'avait emprisonné, d'accord, il aurait été dans une situation plus confortable que d'avouer ses fautes sans qu'il y ait aucun jugement. Parce que s'il était passé dans le tribunal réellement pour le juger, tu aurais tout le monde qui l'aurait accusé, il aurait pu se taire et ne rien dire. La personne ne l'accuse. On lui demande, reconnais le mal que tu as fait. Voilà. Mais je vous assure, c'est plus douloureux. J'en ai vu transpirer plus d'un ce sujet, la voix mourant, s'étranglant. Mais c'est terrible. Même vous, pour des choses moindres, des choses dont qui sont de l'imperfection humaine, quand il faut le dire, regardez comment ça nous, ce que ça nous coûte en nous.
C'est très biblique, hein.
Absolument, c'est ça.
C'est magnifique.
Bon, moi, je ne sais pas si je serais capable de faire ça, moi. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens comme ça, il y a Sœur Teresa, il y a des gens comme ça qui comprennent le sens de l'histoire. Hein, d'ailleurs, en plus, ce sont des gens qui comprennent le sens de l'histoire au moment où ils sont là et qui vont poser un acte qui va dépasser leur propre vécu pour pouvoir appliquer quelque chose de l'ordre.
Pardonner aux nazis.
Oui, tout à fait. Et c'est la foi universalisante parce qu'elle est là, parce que ce sont des actes qui ont une valeur de droit de l'homme pour l'humanité, pour l'ensemble de l'humanité, et qui dépassent mon intérêt. Ça ouvre des horizons et après, ce sont des gens qui dépassent, qui avec ça, on peut construire. Ils ont pu construire quelque chose derrière. Voilà. Eh bien, j'attends un peu. Voilà, me voilà arrivé.
J'ai un paradoxe, c'est celui du disciple. Une fois, j'étudie, celui qui trouvera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie la trouvera.
Exactement.
C'est un paradoxe.
Un paradoxe aussi. Il y en a plein comme ça. On peut s'amuser.
Est-ce que le verset « Mettez-vous en colère » va dans le sens de la révolte?
Absolument, parce qu'il s'agit de la transparence. Comme dans ce passage, mettez-vous en colère, parce que Paul ici parle de la relation vraie qu'on doit avoir les uns avec les autres. D'accord ?
Parce qu'il y en a qui disent que si vous vous mettez en colère, c'est un péché. Mais en fait, non, c'est pas un péché.
Ah non.
Mettez-vous en colère.
Absolument, et dans le texte, c'est un impératif. Ce n'est pas un conditionnel.
Voilà.
C'est pour ça qu'il a été corrigé sur second, parce que second l'avait traduit par « si vous vous mettez en colère », comme si c'était un conditionnel, alors que dans le texte, c'est un impératif, c'est un ordre.
Mais le traducteur n'avait pas compris ce principe-là.
Oui, mais le traducteur aussi tient compte de la culture.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Quand on vit dans une culture
parfois
où se mettre en colère est très, très mal perçu, comme les cultures occidentales, en fait, Je pense qu'il faut mieux éviter quand même.
Moi, je t'offrais une autre réponse. Ah. Ici, parce que, en fait, pour la colère, tu as. Tu as orgueil. Ça, c'est la colère qui dit l'injustice. La colère est le sentiment qui dit l'injustice. Et en grec, tu as un deuxième mot qui est thymos. Celle-là, c'est la violence. Et les gens confondent toujours les deux. Parce que dans la Bible, on utilise deux mots, des deux mots. Mm. Et bien ici, tu vois, avec orgueil, d'ailleurs, Dieu se met, dans la Bible, tu as 600 fois de référence à la colère. Deux tiers, c'est Dieu qui se met en colère. Bien, avec, parfois tu as orgueil, parfois tu as thymos. Et ça, c'est la même racine qu'orgasme. Bon. Mm. En fait, par rapport à cette colère qui dit l'injustice, cette colère doit dénoncer l'injustice, ne se fait pas justice, mais travaille à la justice. On est obligé de la dire. Par exemple, c'est ce qui a permis de l'émergence des lois. Par exemple, en ce moment, depuis plusieurs années, toute la politique de la réglementation de la vitesse, vient de ça. Se servir des associations de parents qui ont perdu leur enfant dans un accident de la circulation parce que l'autre avait l'alcool au volant et tout ça. Ils se sont regroupés. Donc c'est une colère qui dit l'injustice, ça ne doit plus arriver. Ils ont milité suffisamment longtemps. Au début, on ne les entendait pas, mais ils ont milité et maintenant, les lois passent pour réguler ça. En fait, c'est ça. Cette colère-là, c'est ce qu'elle fait. Elle dit ce qui n'est pas juste. Elle ne se fait pas justice, mais elle travaille à la justice, elle travaille au changement. Travailler à la justice, la colère est le sentiment qui demande le changement. Quand Dieu se met en colère, Dieu nous demande de changer, de modifier les choses. Donc on a besoin de la dire. Et très souvent les gens ne la disent pas parce que les gens oublient, confondent celle-ci et celle-là. Mm-hmm. Celle-là va s'organiser, va se penser, va se réfléchir, elle ne sera pas dans l'instant, dans une impulsivité ici. C'est pareil, il ne s'agira pas de casser tout, mais dire ça non, on n'est pas d'accord, tu n'iras pas plus loin, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, il faut que tu changes, ça non.
Le problème, c'est que c'est difficile, je pense, pour la première colère, je suis tout à fait d'accord, mais c'est difficile de la gérer sans montrer des émotions qui risque d'être choquante.
Mais oui, mais tu peux montrer l'émotion de la colère, c'est pas un souci. Jésus l'a montré son émotion.
Mais ça, c'est assez mal accepté dans nos sociétés.
Je sais bien, mais c'est celle-là qui nous construit. Et parce que c'est celle-là qui change la société, c'est celle-là qui demande le changement.
Mais Jacques Lejoux nous disait que nous rappelait que dans la société, comme au Japon d'ailleurs, on était très coupable, on se sentait. On culpabilise beaucoup. Et quand on culpabilise beaucoup, souvent on ne sait pas forcément gérer ses émotions. Et quand on va s'exprimer, même si c'est pour une colère modèle 1, plutôt saine et justifiée, on va le faire sur les nerfs et ça peut être perçu comme une agression.
Tout à fait. Mais cette colère-là, c'est une colère qui se met en mots, qui se dit en mots. Ça, c'est une colère qui est dans l'agir. Regarde. Ici, c'est la colère qui est dans l'agir. D'accord ? Celle-là, on peut la différer. Celle-là, on peut la penser. Celle-là, on peut l'organiser. Celle-là, elle n'est pas dans tout de suite. Celle-là, elle rejoint le militantisme de Dieu pour la justice.
Et quand, pour faire mon je ne sais pas quel numéro dans la liste de tout à l'heure, mm-hmm. Là, 3 ou 4, c'était le verset, quand Jésus renverse toutes les tables là, qui sont... dans le temple et tout, c'est laquelle là?
C'est Thumos.
D'accord. Ah oui, donc elle n'est pas forcément négative et malsaine celle-là.
Voilà. Dans la Bible, dans les 600, c'est tantôt c'est là, tantôt là. Ouais, d'accord. Mais la prière d'Abraham, qui est une prière d'intercession, c'est une prière de colère, de demande de justice, elle est là. Et Dieu entend.
Quand il demande un fils?
Non. Quand il pousse Sodome et Gomorrhe.
D'accord.
Eh oui, Sodome et Gomorrhe, elle est là. C'est celle-là. D'accord. C'est que celle-là ne se fait... comment dire, elle dit l'injustice. Elle n'est pas dans la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Mais elle est dans la demande du changement, de la limite. ça doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Et chaque fois que Dieu veut qu'on change, Dieu se met en colère.
Je disais qu'en fait, que la deuxième façon, Timos, la colère Timos,
c'est la violence.
C'est la violence
qui satisfait simplement
dans l'instant.
Oui.
Mais il y a aussi les gens qui mûrissent une colère violente, et ça s'appelle après la vengeance derrière.
Mais oui, mais celle-là, tu vois, celle-ci, c'est par nature. Pourquoi tu aies une colère? La colère, elle dit une injustice. Ça veut dire que ton injustice, il faut que tu puisses l'identifier. Celle-là, c'est pas celle qui vient parce que j'ai droit de, ou c'est mon droit. C'est pas ça. Celle-là, elle doit être fondée sur une injustice. Or, quelquefois, certaines personnes n'acceptent pas le refus, n'acceptent pas certaines choses, parce qu'ils considèrent qu'ils ont tous les droits. Donc, ils vont se mettre en colère, mais en réalité, cette colère qui couvre, eh bien, c'est celle-là qui doit.
C'est sûr.
D'accord? Le mot justice, c'est important. C'est vraiment le mot important. Parce que ça demande le changement. C'est pour ça qu'elle ne se fait pas justice.
Et à petite échelle dans les relations de tous les jours, je pense justement à un adolescent avec ses parents, par exemple, il peut avoir des colères, des premières colères, si celles-ci ne sont pas entendues parce qu'elles sont perçues comme un petit mot, là, un
oui,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Il peut être frustré.
Voilà, et généralement, la colère qui devient... La haine et la colère sont antinomiques. Elles ne peuvent pas rester ensemble. Souvent, les gens qui ont de la haine, c'est parce qu'ils n'ont pas pu dire la colère de l'injustice.
Ah, ben ça, c'est clair.
Ils se bagarrent contre la haine. Or, tu as besoin de dire la colère de l'injustice. Quelquefois, tout n'est pas possible dans la réalité, mais au moins dans le symbolique. Tu mets la personne, tu imagines qu'elle est là et tu lui règles son compte. Et ça, aussi, le cerveau traite la chose la même chose. Avec la même valeur. D'accord? Oui.
On avait vu que les enfants demandaient en pensant qu'on allait fléchir
bien sûr,
la volonté des parents. Et au moment où c'est dit, on a l'impression que c'est de l'immaturité. Donc du coup, quand Jésus dit « demandez et il vous sera donné », avec toute cette anecdote de la personne qui vient en plein milieu de la nuit.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on doit considérer que ça s'adresse à des chrétiens à un moment de leur développement?
Oui, et si on reprend le paradoxe, si on reprend le paradoxe de tout à l'heure, tu verras, il dit deux choses à ce sujet. Il dit, demandez et vous sera donné, d'accord? Mais il dit, vous demandez pour
satisfaire.
Voilà. Vous allez demander. Donc il y a bien entre le demander et vous recevrez, et ensuite se demander pour satisfaire nos désirs, tu vois, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Souvent dans la Bible, tu as la chose et le contraire. C'est un bel exemple. Donc ça se gère dans le paradoxe. D'accord ? Voilà. Et en plus, tu vas peut-être rajouter en plus. Ce que dit Paul, on ne sait même pas ce qu'il faut demander dans nos prières. C'est l'Esprit qui demande pour nous. Alors, avec ça... Donc, le principe de demander est un principe de relation. Parce qu'il connaît nos désirs, c'est vrai. Mais le principe pour maintenir la relation, c'est que la demande puisse venir aussi de nous. Hein? Comme un double mouvement.
Oui. Est-ce que donc, l'enfant qui grandit dans une famille dans laquelle c'est difficile, avec des parents qui vont le picher, qui les maltraitent et tout ça, qui se fait tabasser par exemple, est-ce qu'il y a quand même, ses parents sont quand même des, malgré tout, des héros, même un peu détraqués ou...
Oui, ses parents sont quand même des parents Dieu, parce qu'ils se disent, et ça je l'ai rencontré souvent, ils se disent c'est parce qu'ils étaient difficiles, c'est parce qu'eux ils ont fait quelque chose pour que les parents soient comme ça. L'enfant va supporter la responsabilité de cette attitude sur lui. Hein? Vous l'avez déjà souvent entendu.
Oui.
Mes parents ne pouvaient pas, c'est parce que c'était dans son époque, on ne savait pas, ils vont trouver des excuses. Oui.
On parlait de l'enfant qui mentait. Si on prend un enfant de 5-6 ans qui va mentir pour cacher qu'il a pris quelque chose, ou etc., oui. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une catastrophe ou...
Non, c'est ça qui, parce qu'il redoute la punition. À cet âge-là, les enfants obéissent par peur de la punition. Et non pas parce que... Parce que la loi, les règles sont extérieures à l'enfant. On ne naît pas avec les règles.
D'accord.
Il faut du temps pour qu'il l'intériorise. Mmh. Donc, quand il fait ça, il ne maîtrise pas. Il y a des règles, même s'il voudrait le maîtriser, il n'y arrive pas. Mmh. Donc, il est défaillant. Et dès qu'on est défaillant, on essaie de...
Donc, ce n'est pas un signe qu'il va continuer comme ça toute sa vie.
Mais non, il faut simplement dire à l'enfant, non, ce n'est pas ça, je sais que c'est ça, je sais que c'est toi. Non, on s'arrête là. On rétablit ce qui est juste.
On va arrêter là, sinon il va louper
son train. Oui, je répète.
Va louper son train.
Excusez-moi.
On peut le remercier.
Ouais.
Merci beaucoup. Éventuellement, on peut la faire revenir.
Ouais.
Oui. Notre sujet ou voilà.
Oh oui. Sur le fait de garder les ados dans l'église, parce qu'on y travaille évidemment. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. N'est-ce pas, Charles? On y travaille.
La dernière fois, Jacques Pujol m'avait donné ça. Je ne sais pas si ça vous a été donné. C'est non. Tous les versets bibliques.
Ah oui, sur les... Oui. Sur le méchant.
Ouais.
Ouais. Les personnalités.
Je ne me rappelle plus, parce que j'en ai plus.
J'avais fait des photocopies pour tous ceux qui étaient là, en tout cas.
Blena qui l'ont fait.
C'est la dernière fois que je n'étais pas...
Ah, voilà.
Quelqu'un peut faire un petit peu de l'autre côté. Pendant que je m'emmène...
Oui,
mais faut pas qu'il rate ça.
Emmenez Cosette.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. C'est passionnant.
Ça vous a intéressé?
Oui. Merci.
Dernière question, c'est juste oui, non.
Oui.
Non, vous avez dit la vraie religion d'enfant entre 2 et 6 ans, c'est les parents.
Oui,
c'est Dieu, il n'a pas besoin d'autres. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une réelle, donner ma vie à Dieu, ça ne peut pas avoir lieu avant 6 ans? Donc, ça c'est pas possible. C'est pas possible avant 6 ans.
Parce que le Dieu sacrifié. Mort résurrection.
Oui.
L'enfant ne peut pas le saisir parce qu'il n'a pas intégré la mort.
D'accord.
C'est vers 7 ans qu'il. Pour lui, mourir, c'est dormir et se réveiller.
D'accord.
Okay. Donc, voilà. C'est à 7 ans qu'il se rend compte que la mort est irréversible. C'est pour ça qu'il a peur de mettre la tête sous l'eau, par exemple.
D'accord.
Voilà. Que la mort est